Les Lévites, pardon, c'était la tribu des prêtres. La parole, le Nouveau Testament nous apprend que nous sommes un peuple de prêtres, un royaume de prêtres. Le prêtre ici, c'est pas moi. C'est nous tous. Si nous croyons en Christ, si nous voulons vivre pour lui, alors nous sommes des prêtres. Ça veut dire que nous participons à la louange, nous participons à la prière, à l'intercession, nous participons au service de Dieu qui passe par le service des autres. Que Paul disait dans Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et encore une fois, il y a des chrétiens qui prennent la Bible, qui la mettent dans le mixeur et qui mélangent tout. Et qui en sortent des doctrines qui ont l'air très appétissantes. Comme la doctrine de la prospérité. Qui dit que si nous suivons Dieu, alors il va nous rendre riches. Financièrement, il va nous guérir physiquement. Et bien sûr, Dieu a toute liberté de le faire. Et nous le remercions quand il le fait. Nous lui demandons de le faire. Mais nous ne réclamons rien. Parce qu'il ne nous a pas promis cette prospérité matérielle. Au Lévite, il n'avait pas promis d'héritage matériel. Quel était leur héritage? Dieu lui-même. Et de même, pour nous, nous l'avons lu encore dans 1 Pierre, mercredi dernier, 1 Pierre 1:4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Pardon, j'ai lu la première partie, c'était bien sûr Éphésiens 1:4, 1:3. Le fait que nous sommes bénis en toute bénédiction, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions spirituelles sont beaucoup plus importants que les bénédictions matérielles. Nous n'avons jamais été autant bénis matériellement dans l'Ouest. Il n'y a jamais eu autant de dépression, de gens qui se suicident. Le Seigneur est bon et il pourvoit à nos besoins. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé de pourvoir à tous nos désirs. Amen. Verset 12. Moïse donne une réponse à une question qu'on devrait tous se poser. une fois qu'on a admis l'existence de Dieu, et la Bible explique que seul l'imbécile ne croit pas à Dieu. Psaume 14, l'insensé dit en son cœur, Dieu n'existe pas. Tous ces gens qui peuvent être même très instruits, très intelligents, avoir un grand quotient intellectuel, Dieu les appelle des imbéciles. Parce qu'ils ne voient pas des choses qui sont devant leur nez. La beauté de la création. Le fait que nous avons un sens inné du mal et du bien. Il faut s'opposer à cette révélation pour ne pas la recevoir. Nous savons qu'il y a une dimension spirituelle, que nous sommes, que ces gens sont aveuglés par l'ennemi. Mais une fois qu'on reconnaît l'existence de Dieu, la question naturelle c'est qu'est-ce que je dois faire? Et là il répond maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, verset 12, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui afin que tu sois heureux. Dieu veut notre bonheur. Il n'est pas là pour nous empêcher d'avoir du bonheur. Il veut avoir une relation d'amour intime avec nous. Dieu est pour vous. L'ennemi est contre vous. Ne croyez pas à son mensonge qui dit que Dieu est contre vous et que lui est pour vous. Ce serait stupide. Première chose, la crainte de Dieu. Vous savez que dans les plusieurs passages, il est dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si je ne réalise pas que Dieu est tout-puissant, qu'il est saint, si je pense qu'il est juste là pour m'aider quand ça va vraiment mal, alors je ne vais pas vivre comme il le veut. Je vais faire ce que je veux. Et puis quand ça, il y a des gros problèmes, des gros pépins, alors j'irai frapper à la porte. Par contre, si j'ai un respect de Dieu, si je sais que le péché est une horreur à ses yeux, alors je vais commencer à être sage, à vivre intelligemment. C'est-à-dire à éviter le péché. Première chose, la crainte, et deuxième chose, l'amour de Dieu. De tout son cœur. C'est-à-dire de toutes ses ressources personnelles en hébreu, de son intelligence, sa volonté. De toute son âme, de tout son être. Et troisièmement, lui obéir parfaitement. Quel monde merveilleux, quel monde fantastique on aurait si on suivait ces deux versets. Les partis politiques établissent des programmes communs. Les Ici, nous avons la clé du bonheur, c'est l'obéissance. C'est la crainte, c'est l'amour de Dieu, l'obéissance. Encore une fois, Dieu n'a jamais sauvé personne par la loi. Le problème, c'est que cet idéal, personne n'arrive à le vivre. Si nous pouvions, nous n'aurions pas besoin du sacrifice de Christ. Si mon bonheur dépendait de mon respect de ces deux versets, si votre bonheur dépendait du respect de ces deux versets, alors je crois qu'il y aurait problème. Amen. Il n'y a pas de distinction, nous dit Paul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Encore une fois, nous ne pouvons pas naturellement respecter les commandements de Dieu. Parce que nous avons hérité d'une nature de pécheur. Mais la bonne nouvelle, telle que Jésus la révèle dans Jean 6, les gens qui lui demandent « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ? Que devons-nous faire ?» Jean 6, 28. Jésus leur répond pas de craindre l'Éternel, de l'aimer, d'observer tous ses commandements. Love him, serve him, obey all his commands. Il répond, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Là, si on comprenait bien les choses, on devrait s'arrêter et applaudir et chanter Alléluia au Seigneur. Parce que vivre parfaitement, ça je ne sais pas faire. Mais croire en celui qui est parfait, ça je peux. Est-ce qu'il y en a qui ont le calendrier de la bonne semence? Ne levez pas la main, sinon vous allez penser que vous montrez plus spirituel que vous n'êtes. Je vais me faire croire plus spirituel que je suis. Je ne lis pas tous les jours. Il y a des fois, je dois en retirer 3 ou 4. Et je les garde parce que je dis que je prendrai le temps de les lire. Il y en a qui font ça aussi, non? Mais il se trouve que hier, samedi 12 mai, il était question de Luther qui réfléchissait au psaume 31. En toi, Éternel, j'ai placé ma confiance, libère-moi dans ta justice. Et la question qui gênait beaucoup Luther, c'était comment est-ce que Dieu peut me délivrer dans sa justice, moi qui suis pécheur? Il sentait qu'il n'avait pas réglé ses comptes avec Dieu. Mais lisez l'Épître aux Romains et l'éclair a jailli d'un coup. Il a dit, si la justice de Dieu s'obtient par la grâce, c'est qu'elle ne se fonde pas sur mes bonnes actions, sur mes œuvres. Parce que celles-ci sont toujours insuffisantes. Et cette justice de Dieu qui s'obtient par la grâce, elle dépend de l'œuvre de Christ qui, elle, est parfaite. C'est par la foi que nous nous approprions cette justice. Et Luther a compris que le juste vivra par la foi. C'est la foi qui nous sauve. Ce n'est plus mes bonnes œuvres. Dieu merci. Amen. Alors une fois maintenant que nous sommes sauvés, il va nous inspirer des bonnes œuvres. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. En essayant de mériter l'amour de Dieu, son acceptation par nos bonnes actions. Moïse continue en disant que tout appartient à Dieu. Verset 14, voici qu'à l'Éternel, ton Dieu, appartient les cieux et les cieux des cieux, c'est-à-dire les cieux au-delà des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Les gens se disent, mais si tout lui appartient, pourquoi est-ce qu'il autorise la souffrance, la violence, la mort, la maladie? C'est un peu comme, pour ceux qui savent ce qu'est mai 68, je me date un peu. La révolte des étudiants contre le système politique de l'époque. C'est un peu comme si un visiteur extraterrestre était venu et il était rentré dans les locaux de la Sorbonne. Où il y avait un soulpe pas croyable. Il y avait. C'est très folklorique. Il y avait le désordre. Les études, c'était plus très suivi. Et c'est un peu comme si ce visiteur extraterrestre s'était demandé, mais pourquoi est-ce que le ministre de l'Éducation organise-t-il ainsi l'enseignement en France? On lui aurait expliqué, mais c'est pas l'enseignement tel qu'il l'a prévu. C'est l'enseignement tel que le veulent les rebelles. Alors, il est question de porter un jugement sur le bien fondé de certaines requêtes des étudiants. Mais l'absurdité de la question qu'on imaginait pour cet être extraterrestre, c'est la même que les gens qui demandent « Mais pourquoi est-ce que Dieu laisse faire tout ça ?» Le monde tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est pas le monde tel que Dieu le veut. C'est le monde tel que notre rébellion l'a conduit à être. Notre égoïsme a fait que nous ne partageons pas les choses. Il y a des peuples où il n'y a pas d'eau, pas de nourriture. Ici, on a trop de nourriture. On a trop d'eau. Donc, bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas régler facilement. Mais si on avait le souci de l'autre réel, non, mais Nous voulons être plus riches que l'autre. Nous voulons protéger nos acquis. De la même façon, le monde tel qu'il est, il appartient à Satan. Satan usurpe son autorité. La terre avait d'abord été donnée, confiée à l'homme. En suivant l'ennemi, en suivant le diable, l'homme a donné le titre de propriété à Satan. Lorsqu'on est esclave de quelqu'un, tout ce qu'on a lui appartient. Ça c'est Romains 6, 16. On devient esclave de celui à qui on obéit. Et donc il faut répondre aux gens que ce que vous voyez n'est pas ce que Dieu veut. Vous pouvez les rassurer que très bientôt, Dieu va corriger les choses. Il va nous montrer ce qu'il entendait. Et maintenant, c'est le temps de la miséricorde, le temps de sa patience. S'il devait venir maintenant, il devrait nous détruire. Il veut que le plus grand nombre vienne à la connaissance de la vérité par Jésus-Christ. Son apparente inaction, ce n'est pas du laxisme, c'est de l'amour. Moïse rappelle le caractère de Dieu. Verset 17. Votre Dieu est le Dieu des dieux. En sous-entendu, vos faux dieux. Il n'y a qu'un Dieu. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit pas de présent. Il est différent des hommes politiques. Il n'a pas de favoritisme. Et il ne reçoit pas des pots de vin. On ne peut pas lui faire des cadeaux pour l'influencer. Il ne reçoit pas de présents. Et encore une fois, luttons dans nos cœurs contre cette idée que si on fait des grands sacrifices, on va obliger Dieu à nous servir. On va mettre la pression sur Dieu en priant les 24 heures. Encore une fois, c'est bien de prier 24 heures, mais pas dans l'espoir de mettre la pression sur Dieu. Et au contraire, Dieu a une préférence pour les faibles. Il fait droit à l'orphelin, à la veuve, il aime l'immigrant et lui donne la nourriture et le vêtement. Il lui rappelle que eux aussi devraient aimer ces immigrants parce qu'ils ont été eux-mêmes immigrants. Donner la nourriture et le vêtement pour les immigrants, c'est ce que fait la Bêche, c'est ce que fait l'armée du salut. Ça, c'est un des nombreux versets qui montrent que c'est biblique. Amen. J'ai été immigrant aux États-Unis. Et je devrais aussi montrer de l'amour, de l'aide aux immigrants en France. Vous avez été une fois loin de Dieu. Vous viviez hors de lui, dans le péché. Alors ce n'est pas le moment d'être orgueilleux envers ceux qui vous entourent et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Dieu a de la haine pour l'orgueil spirituel. Surtout là, il nous rappelle que nous aussi, on a été des gens du dehors. Et qu'on doit les accueillir par l'amour pratique pour les conduire à Christ. Je vous laisse lire vous-même complètement le chapitre. Verset 22 du chapitre 10 rappelle qu'ils étaient partis 70. Ils sont arrivés à 2-3 millions en 400 ans. Il y a eu une multiplication remarquable du peuple d'Israël dans l'adversité. Ça, bien sûr, pour nous, c'est la vérité aussi. On grandit mieux dans l'adversité spirituelle. Si tout va bien, alors nous avons cette fâcheuse tendance à oublier notre Dieu. Chapitre 11, Moïse continue avec des raisons d'aimer et de craindre Dieu. Il leur rappelle ce qu'il a fait pour eux en les libérant de l'Égypte du Pharaon. Il leur rappelle aussi leur rébellion dans la traversée du désert. Verset 6. Puis il leur rappelle la merveilleuse beauté, la merveilleuse provision dans le pays que Dieu leur a promis. Le pays dans lequel vous passez pour en prendre possession, verset 11, est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Le problème de l'eau, on a dit que ça allait être un problème plus grave que celui du pétrole. Il ne faut pas aller dire ça aux gens d'Abbeville, de la Somme, en ce moment. Mais c'est vrai que nous consommons de plus en plus d'eau. L'eau que nous utilisons pour nous laver, pour boire, mais l'eau qui est utilisée pour faire pousser le blé, pour nous faire du pain, l'eau qui est utilisée pour engraisser, pour faire pousser des céréales pour les animaux, c'est astronomique la consommation d'eau que nous faisons. Je n'ai pas les chiffres récents. Et dans le Moyen-Orient, ils avaient vécu en Égypte, ils devaient arroser l'eau, ils devaient irriguer, pardon, les terrains. Et là, il leur dit que Dieu allait pourvoir, que la pluie allait tomber. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans ton champ, verset 15, de l'herbe pour ton bétail, Tu mangeras et te rassasiras. Et verset 16, Moïse les met en garde contre l'idolâtrie. Parce que verset 17, la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux, il n'y aurait pas de pluie, le sol ne donnerait plus ses productions, et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Quel est le secret de la prière efficace? Efficient, effective, okay. Vous connaissez Élie, le prophète, Elijah. Il avait dit qu'il n'y aurait pas de pluie dans le pays. Prière prononcée avec une extrême confiance. Et exaucé au point que c'est maintenant un exemple de prière efficace dans la Bible. Dans Jacques 5, 16, il est dit « La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son effet. » Jacques 5, 16. Le pasteur John Corson de Calvary répond que le secret de la prière efficace d'Élie c'est que Élie connaissait les versets 16 et 17 du chapitre 11 du Deutéronome. Il avait foi dans la parole de Dieu. Et ces versets mettaient en garde le peuple d'Israël contre l'idolâtrie. Il était facile pour Élie de voir que l'idolâtrie avait progressé au-delà de tout ce qui était pensable. Et lorsqu'il priait à Dieu, quelque part, il priait la promesse de Dieu. Et ça nous montre que le secret de nos prières efficaces pour nous, c'est de connaître la parole de Dieu. Pas de fabriquer un Dieu qui nous irait bien, un Dieu qui n'aurait pas de demande sur nous, qu'on irait voir quand ça ne va pas bien. Un espèce de génie qui, comme la lampe d'Aladin, qui pourrait nous donner les choses dont nous avons envie. C'est pas seulement ce passage qui nous le montre. Jésus lui-même l'a affirmé de façon solennelle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Jean 15, 7, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le secret de la réponse à la prière, c'est d'être en intimité, dans la relation d'amour avec Dieu, avec Christ. Et de connaître sa parole, que ses paroles demeurent en nous. Jean 5, 14 dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et si nous avons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. faut prier selon sa volonté. Il faut bien sûr la connaître. C'est-à-dire qu'il faut connaître sa parole. Et Moïse continuait en disant, vous mettrez dans votre cœur, dans votre âme, les paroles que voici, vous les lirez comme un signe sur vos mains, seront comme des frontaux entre vos yeux, vous les enseignerez à vos fils et vous leur parlerez quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, et vous savez que les Juifs orthodoxes, aujourd'hui encore, ont des petites boîtes, des petits phylactères ou des mezouzas qu'ils mettent, soit sur, s'ils sont très orthodoxes et très fervents, sur leur front, sur leurs mains ou sur les portes, le chambranle de leur porte, pardon. Et en faisant ça, sans orgueil spirituel, je crois qu'ils montrent qu'ils n'ont rien compris. C'est le problème du rituel et du spirituel. Nous avons tendance à nous attacher à l'extérieur, au rituel. Dieu lui s'attache à la réalité spirituelle des choses. Le problème, c'est que nous, on ne peut pas voir le cœur. Et donc, nous attachons à ce qui est extérieur. Jusqu'au jour où l'extérieur ne correspond plus à l'intérieur. Et nous servons de mauvais exemples à ceux qui nous entourent. Ce que Dieu veut, encore une fois, c'est pas vos rituels. C'est votre cœur. Ce verset voulait simplement dire qu'il fallait qu'il soit intimement familier avec les préceptes de Dieu. Et Dieu aurait pu les embêter en leur disant qu'il fallait qu'il les ait sur le bout de la langue. Et donc aujourd'hui, ils se promèneraient avec des boîtes attachées à la langue. Si ces commandements ne sont pas mis en pratique spirituellement, ça ne sert absolument à rien. Alors bien sûr, on peut plaisanter sur ces personnes et oublier que nous sommes souvent coupables de la même chose. Nous pouvons porter des grosses Bibles, assister scrupuleusement à toutes les réunions, mais si nous ne laissons pas la parole de Dieu nous transformer de l'intérieur, si ce n'est pas vécu, ça ne sert absolument à rien. Amen. S'il n'y a pas de réalité spirituelle, jetez le rituel. Dieu veut tellement nous bénir. Verset 24, il promet que tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. De la Méditerranée à l'Euphrate, au sommet de l'apogée de leur étendue, de leur gloire. Le roi Salomon, on estime qu'ils ont en fait possédé seulement un dixième de ce que Dieu voulait qu'ils possèdent. Et nous sommes de la même façon, nous avons la même chose. Dieu veut nous bénir de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus notre Seigneur. Et nous nous laissons malmener par l'ennemi, par le manque de foi, nous n'osons pas, nous avons peur du changement, et pourtant le Seigneur dit que tout ce que nous foulons de nos pieds sera à nous. Il termine dans ce chapitre en disant qu'il leur donne un choix. Il met la bénédiction et la malédiction devant eux. La bénédiction s'ils obéissent au commandement d'Éternel. La malédiction s'ils n'obéissent pas au commandement d'Éternel. Dieu ne nous force jamais. Il nous laisse le libre arbitre. Le choix est à vous. Est-ce que nous allons choisir d'obéir Dieu, qui nous donne des commandements pour nous bénir, ou alors est-ce que par manque de foi, par peur du changement, nous allons désobéir à Dieu? Dieu veut notre cœur parce qu'il veut notre bonheur. Prions. Seigneur, pardonne-nous si, comme ce peuple d'Israël, trop souvent nous avons la nuque raide. Si nous ne voulons n'en faire qu'à notre tête, Seigneur, pardonne-nous pour notre orgueil spirituel, par le mensonge que trop souvent nous vivons entre ce que nous professons et ce que nous faisons. Mais Seigneur, merci parce que tu nous aimes tant. Tu viens nous aider par ta grâce, Seigneur, à vivre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, c'est pour ça que je peux te plaire. Seigneur, que cette semaine soit une semaine de réalité dans nos vies. Que le Seigneur Jésus puisse vraiment se manifester en nous, en sainteté, en amour pour les autres, et en obéissance. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait pour nous. Merci que la grâce est venue par toi. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine dans la présence du Seigneur. Lisez votre Bible chaque jour et priez. Amen. Et tous les chefs de clan, mais là aussi, ça nous enseigne une leçon. Trop souvent, Jacques nous le dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Encore une fois, je crois qu'il y a cette illustration de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour chaque chrétien. Et on dit que les anges se promène dans cet entrepôt gigantesque. En se disant, mais pourquoi est-ce qu'ils ne montent pas? Demandons dans la prière. Demandons de grandes choses, pas pour nous, mais pour Dieu. Dieu veut être glorifié. Dieu veut être là pour nous. Il veut que nous croyions à ses promesses. Encore une fois, je vous invite, je vous encourage à venir aux réunions de prière. Nous avons prié pour que Rain avait perdu son passeport avait été égaré par le consulat français à San Francisco. Il n'était pas sûr qu'on lui avait accordé un visa ou pas. Ça fait 2 semaines qu'on prie. Et hier, il a appris qu'on avait retrouvé le visa, le passeport avec le visa. Alors peut-être vous dites, bon, bah, c'est une coïncidence, il n'aurait pas prié, ça serait arrivé quand même. Mais lorsque nous prions, nous savons que c'est une réponse. Et finalement, nous allons terminer avec Moïse qui demande un successeur. L'Éternel avait dit à Moïse au verset 12 de monter sur la montagne d'Abarim, de regarder le pays qu'il allait donner aux Israélites. Tu pourras le voir, mais toi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli, c'est-à-dire une façon de dire tu vas mourir avant de pouvoir rentrer. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Sin, lors de la contestation de la communauté, verset 14, et que vous n'avez pas sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadesh dans le désert de Sin. C'est le rappel de l'épisode où Moïse s'était mis en colère contre le peuple de Dieu, avait frappé 2 fois le rocher alors que Dieu lui avait demandé de parler simplement au rocher. Il avait mal représenté Dieu. Il avait représenté Dieu en colère alors que Dieu était toujours prêt à accorder sa grâce. Et en fait, on voit que Moïse, il accepte cette situation sans rechigner. Mais il demande à Dieu qu'il établisse un successeur, quelqu'un qui puisse guider la communauté de l'Éternel. Ça, c'est le cœur de Jésus qui, lorsqu'il voyait les foules, disait qu'il avait compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et c'est exactement les mots que Moïse utilise au verset 17. Il ne veut pas que la communauté de l'Éternel soit comme les brebis qui n'ont point de berger. Et donc, on voit l'amour que Moïse avait pour son peuple, le désintéressement qu'il avait pour son peuple. On se dit, le Seigneur est dur avec lui. Mais en fait, on sait qu'un jour, il va mettre le pied sur cette terre promise. Dans le Nouveau Testament, il est apparu aux disciples sur le mont de la Transfiguration. Et l'homme que Dieu a choisi, c'était Josué. C'était du boulot. Gouverner Israël. Et conquérir Canaan. Nous avons le même défi aujourd'hui. Nous devons mener l'Église et conquérir le monde autour de nous. Et ce qui est rassurant, c'est que Josué, en fait, c'est un type, une préfiguration de Jésus. Il est la tête de l'Église. Il est avec nous pour faire des disciples de toutes les nations. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler que c'est par la foi que nous pouvons te plaire, Seigneur. Seulement par la foi. Merci de nous libérer des œuvres. Des œuvres faites pour essayer de t'impressionner. Ou pour mériter quelque chose en retour. Tu nous dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire de toute façon. Mais avec toi, tout est possible. Alors Seigneur, aide-nous à demeurer en toi. Comme la branche doit demeurer sur la vigne. Contact en relation étroite. Merci de ce que tu es avec nous, Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore cette relation d'intimité avec le Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore plantés sur la vigne. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous inviter à le faire. Et vous pouvez le faire en répétant en silence cette simple prière. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. C'est-à-dire de choses qui ont une durée, qui ont une valeur durable. Une valeur éternelle. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je suis un pécheur. Seigneur, merci du sacrifice que tu as fait à la croix, qui a payé pour ma faute, Seigneur. Tous mes péchés, ceux du passé, ceux de maintenant et ceux du futur. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur et je te demande d'y venir régner. Seigneur, aide-moi par ton Esprit Saint à m'éloigner du péché pour me tourner vers toi. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Pendant que nous sommes recueillis, si certains ont prié cette prière, j'en demanderai de lever la main. Souvenez-vous que aujourd'hui est le jour du salut. Merci Seigneur pour ces deux personnes qui se donnent à toi. Sanctifie-les Seigneur. Protège-les de l'ennemi qui voudra les éloigner de toi. Merci de marcher avec elles Seigneur et nous à les fortifier aussi Seigneur. Sois glorifié dans leur vie. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite maintenant à un temps